Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Cette phrase, cela faisait un mois que je ne l'ai pas prononcée, ça m'avait un petit peu manqué. Désolé pour ce mois sans podcast, c'était pour une bonne nouvelle et pour une bonne cause, je vous promets. Alors je suis de retour, les reporters avec moi, pour continuer à vous raconter les coulisses de la politique et ceux vus du terrain. Et pour ma reprise, l'actualité, bon, vous le savez, elle est triste, elle est morose, elle est révoltante, elle est même anxiogène. Désolé pour cela aussi, mais entre Arras, Bruxelles, Israël, on a très peu de raisons de sourire en ce moment. En revanche, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin ou encore Gabriel Attal ont beaucoup de raisons de s'inquiéter. Comment l'exécutif, en coulisses, vit cette période sombre? Bienvenue dans ce nouveau numéro du service politique. Et pour m'accompagner, pour vous raconter les coulisses politiques de ce moment assez difficile pour la France et plus généralement, les deux reporters qui suivent Emmanuel Macron pour BFM TV, Léopold, salut, Léopold Audebert.
Salut Thomas.
Qui a traîné vers l'Élysée, vers l'Assemblée aujourd'hui, nous racontera un petit peu le off. Et puis en face de moi, à la rédaction, Mathieu Couache qui vient de poser sa valise à côté et qui revient d'Arras.
J'avais pas de valise.
Ah ben, c'est une expression.
Non, mais si c'est pour raconter n'importe quoi aux auditeurs.
Tu n'as pas dormi à Arras hier soir, mais en tout cas, tu étais à Arras et on va y venir parce que c'était les obsèques aujourd'hui de l'enseignant Dominique Bernard en présence d'Emmanuel Macron. On commençait par ça, Mathieu, justement. On a vu des images sur BFM TV ce jeudi matin. De très loin, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Gabriel Attal, très discrets, les trois, lors des obsèques. Pourquoi cette discrétion de l'exécutif?
Alors, c'est plutôt la discrétion de la famille de Dominique D'accord. Bernard, en fait. C'est ce que j'ai compris, ça n'a pas été dit tout à fait officiellement, mais c'est qu'il y a eu des discussions, comme avant chaque hommage qui est rendu d'une façon ou d'une autre par le président de la République. Ouais. L'Élysée contacte les familles concernées. Et ce qui a semblé logique, c'est vraiment de faire ça de la manière la plus humble, la plus sobre, parce que l'épouse de Dominique Bernard l'a rappelé pendant la cérémonie, il n'aimait pas les honneurs, il n'aimait pas les cérémonies. Donc la famille s'est bien rendu compte que c'était nécessaire de faire quelque chose parce que la France a besoin bien de faire le deuil de ce professeur assassiné, mais dans la plus grande discrétion, en fait. Donc, cette idée de ne pas avoir de plan serré, c'était surtout pour les proches de Dominique Bernard, et ça s'est appliqué.
Parce que ceux qui ont suivi les obsèques sur BFM TV n'ont vu que des plans larges,
exactement.
Et n'ont pas vu non plus les collègues de Dominique Bernard, leur visage, on n'a rien vu.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'était la volonté de la famille, et ça s'est appliqué au président de la République. Puis il y avait une autre question, c'est pourquoi pas d'hommage national, parce
c'est
que
vrai.
Ça aurait pu avoir lieu. Bah, la réponse est la même, c'est parce qu'il n'aimait pas les cérémonies, parce qu'il n'aimait pas les honneurs, et donc ça aurait été trop. Et donc là, c'est pas vraiment une demande formulée comme ça par la famille, mais c'est plutôt l'Élysée qui a interprété la volonté de la famille.
Et donc, Léopold, Mathieu, vous avez les yeux rivés sur l'agenda du président au fil des jours. Et on peut dire que depuis maintenant quelques jours, Léopold, on s'arrache un peu les cheveux en tant que journaliste politique parce que l'agenda du président est bousculé au jour le jour et ce n'est pas du tout ce qui était prévu en ce moment.
Oui, exemple concret, aujourd'hui, moi je ne devais pas du tout être dans une journée où je pouvais prendre des cafés avec des députés, etc. Je devais être avec Emmanuel Macron, notamment à Villers-Cotterêts pour un déplacement sur la France, la francophonie, etc. Quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'agenda actuel. Et finalement, ça a été annulé pour des raisons d'agenda, notamment évidemment les obsèques de ce matin, qui rendait incompatible un déplacement le matin en fin de journée. Bref, il a fallu trouver des fenêtres d'opportunité, des fenêtres de plus libres pour le président pour prioriser ses déplacements. Et on a aussi, par exemple, le voyage en Suède, un voyage officiel qui était prévu, voyage d'État, la semaine prochaine, qui finalement n'aura pas lieu. Et puis, autre exemple très concret, ce mercredi, il y avait une réunion sur l'alimentation scolaire, réunion mondiale de la coalition pour l'alimentation scolaire qui devait avoir lieu. Et Emmanuel Macron a décidé de ne pas s'y rendre et a été remplacé, Thomas, par Chrysoula Zakharopoulou, qui est secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux.
Même noté Thomas,
il est bon.
A hésité un tout petit peu là-dessus.
Même moi, je suis impressionné. Là. Je me dis, waouh, il connaît l'organisation par cœur.
Pas mentir, je l'ai écrit parce que c'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup et que ça me paraissait important de la citer parce que c'était elle donc, qui
a remplacé
prononcé le discours. écrit par l'Élysée.
Et qui a lu le discours, oui.
Non, ce qu'on peut dire, c'est que ça ressemble un petit peu au début de la guerre en Ukraine,
exactement,
cette période.
Le parallèle est intéressant, c'est vrai.
Voilà, parce que le président faisait le vide dans son agenda pour se laisser du temps pour parler à tout le monde. C'est vrai que c'est son grand truc, ça, de parler à tous. Donc là, c'est vrai qu'il multiplie les appels. Alors, je ne vais pas faire tous les pays, mais enfin, tous les pays de la région intégralement ont été contactés une, deux,
là,
trois fois.
Là, concrètement, il est à l'Élysée toute la journée, il passe des coups de fil un petit peu aux acteurs, c'est ça?
Oui, d'ailleurs, souvent, on le sait après. On a le compte-rendu des appels une fois qu'ils ont été passés. Effectivement, enfin, il libère en tout cas du temps pour ça et pour tenter de trouver une solution. Alors, les résultats, par contre, pour l'instant, on ne les a pas vus, mais ça pourrait arriver à un moment.
Alors, il doit faire face, Emmanuel Macron, à des crises majeures qui parfois sont liées. L'attaque d'Israël, l'attentat à Arras, à Bruxelles également. Toi, Léopold, tu as pu voir hier, aujourd'hui, des conseillers, de l'exécutif, des élus. Dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce qu'il y a panique à bord au sommet de l'État ou dans la majorité?
Il n'y a pas panique à bord, mais il y a clairement opération réaction dernière minute. On parle avec des conseillers presse ou des conseillers proches du chef de l'État qui, très clairement, déjà qu'ils ne dorment pas beaucoup comme nous, dorment encore moins. En ce moment, ça se sent. Il y a un flux tendu, il y a quelque chose, il y a une tension quand même qui est
même
présente.
Même on le voit, je ne sais pas toi, Léopold, tu as vu le président plus que moi depuis trois jours, mais même, je trouve, sur le visage du président, on sent quand même l'inquiétude et même la fatigue, comme tu disais.
Oui, c'est un peu la première fois que je l'ai ressenti, notamment ce mercredi où il recevait à l'Élysée la première ministre d'Estonie. J'ai trouvé que pendant ce qu'on appelle une déclaration à la presse, donc c'est comme une conférence de presse, sauf qu'il n'y a pas de questions, donc l'un et l'autre prennent la parole au fur et à mesure. Et lorsqu'il a parlé, je trouvais que son regard était quand même assez un peu plus fatigué que d'habitude. Mmh. Et lorsque son interlocutrice, elle, parlait, il avait un regard un peu plus dans le vide, concentré sur ses fiches, pour avoir fait plusieurs déplacements récemment, notamment à l'étranger, où je trouvais qu'il était beaucoup plus énergique. Là, je trouvais que, notamment, au milieu de semaine, il y avait une petite... des petits signes, un petit peu plus de voilà, on sentait que les nuits, elles étaient un peu plus courtes que d'habitude, quoi.
Ouais. Mathieu ?
Non, mais ça me rappelle l'Ukraine aussi. Je le revois arriver au Salon de l'Agriculture en 2022. Donc, le Salon de l'Agriculture, c'est toujours le grand moment de l'hiver pour le président de la République.
En plus, campagne présidentielle en même temps.
Campagne présidentielle, voilà. Il avait la voix complètement cassée. Bon, après, certains lui ont reproché d'en jouer un peu aussi, de ce côté. J'essaye de faire de sauver le monde. Et sur l'Ukraine, on sait que les résultats n'ont pas été là, par ailleurs.
Moi, je remarque, je sais pas toi, mais il le fait moins sur Israël. Est-ce qu'il a retenu un peu la leçon
je
aussi
pense,
de l'Ukraine?
Oui,
il y a ça aussi.
Puis c'est vraiment, espérer résoudre ce conflit-là.
Bonne chance à celui qui veut le faire.
Ouais. Exactement.
Ouais. Justement, en Israël, est-ce qu'il va y aller ou pas? Parce qu'on a vu Joe Biden, on a vu d'autres représentants européens.
Alors là,
pas Emmanuel Macron.
L'Élysée fait toujours la même réponse sur toutes ces questions. C'est il ira quand ce sera utile.
Ouais. Lui-même l'a dit.
Alors, lui-même l'a dit, et c'est de toute façon le mode opératoire de l'Élysée, de ne pas y aller juste pour y aller et pour parler aux uns aux autres, mais seulement quand il y aura quelque chose à faire. Là aussi, en fait, on se demande ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est utile.
Peut-être pour les otages?
Peut-être pour les otages.
Alors, on se parle encore cette personne portée disparue chez les Français.
Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Léopold, mais c'est dur de voir une fenêtre dans laquelle il va aller là-bas pour être utile pour faire quelque chose.
Sur l'Ukraine, il avait aussi beaucoup tardé.
Souviens-toi,
on avait ce débat pendant des mois.
Et à la fin,
il a dû y aller, mais sans trop de raisons.
Et sans faire grand-chose.
Non, et sans faire grand-chose. Donc, il y avait un peu ce côté-là. Donc, il doit faire face à beaucoup de crises en ce moment. On n'aimerait pas être à sa place, on ne va pas se mentir, ni vous ni moi.
Et juste un mot, la principale préoccupation, c'est aussi celle de la France. C'est-à-dire que ce conflit ne s'importe pas en France, qu'il n'y ait pas d'autres attaques terroristes. C'est-à-dire qu'on parle du conflit là-bas, mais dans la tête du président, chaque matin, il y a cette idée qu'il peut y avoir d'autres attentats. Il y a cette question des manifestations interdites. Est-ce que ça peut... Donc il y a d'abord la France qui est dans sa tête, avant le Moyen-Orient.
Je voyais aujourd'hui un membre éminent de l'exécutif qui me disait ce qu'on craint le plus, au-delà des attentats possibles, et évidemment, ils vivent avec ce risque-là, et on va y venir comme en 2015, mais c'est le risque d'exportation du conflit israélo-palestinien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une opinion publique qui est plutôt du côté des personnes victimes, c'est-à-dire du côté d'Israël, ce ministre me disait, réaliser demain, quand il y aura la contre-offensive israélienne, quand vous verrez des images peut-être de civils à Gaza qui sont morts, etc., une partie de l'opinion publique...
Déjà celle de l'hôpital, même si
l'hôpital
tir, évidemment, n'a pas
début,
été déterminé.
Il peut y avoir une partie de l'opinion publique qui se retourne et on voit qu'on sort d'émeutes, notamment dans les banlieues. et qu'il y a toujours ce côté abrasif et que ça peut reprendre. Donc, on sentait vraiment l'inquiétude de l'exportation. J'en reviens plus largement à l'exécutif. Donc, on a parlé d'Emmanuel Macron. Il y a deux hommes dont on parle beaucoup en ce moment et que l'on voit beaucoup, que l'on entend beaucoup, c'est Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Ça me fait penser un petit peu à Manuel Valls et Bernard Cazeneuve en 2015, qui étaient les deux visages de la crise terroriste à l'époque. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, c'est Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Est-ce que, Léopold, ces deux visages-là que l'on voit, c'est seulement dû à leur fonction, d'ailleurs, un ministre de l'Intérieur, l'autre ministre de l'Éducation nationale, ou est-ce qu'il y a derrière tout cela aussi de la politique qui se joue?
Bah, il y a les deux. Il y a évidemment, c'est évidemment dû à leur fonction. Ce qui est symbolique, c'est que lorsque Dominique Bernard est tué, assassiné, et que immédiatement le président de la République se déplace, qui est-ce qui l'emmène avec lui? Évidemment, Gérald Darmanin, Gabriel Attal. Donc ça part de là. Et
puis par ensuite, leur fonction, derrière, évidemment, ouais.
Voilà, de par leur fonction. Et derrière, évidemment, les deux font de la politique, mais ce qui est absolument normal. Si on parle d'abord de Gérald Darmanin, oui, évidemment, il joue très gros sur cette séquence parce qu'il est attendu au tournant sur les questions de sécurité, avec des oppositions qui sont à cran et qui, à chaque moment, vont trouver la faille ou en tout cas vont essayer de trouver l'angle d'attaque pour cogner sur le gouvernement. Et puis Gérald Darmanin, on va pas se mentir, il a aussi, évidemment, et il le répète d'ailleurs lui-même à chaque intervention, une loi immigration qui arrive au Parlement au mois de novembre et qui, il le répète à chaque prise de parole, doit lui permettre, en étant voté, d'avoir plus de moyens pour résoudre des solutions compliquées et notamment la question des expulsions des fichiers S ou des personnes qui sont radicalisées. Et c'est vrai que dans chaque intervention de Gérald Darmanin, que ce soit dans les 20 heures, que ce soit sur les différentes chaînes info, que ce soit lors des conférences de presse, parce qu'il a multiplié les conférences de presse, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 jours où on a vu sur l'antenne notamment de BFM TV, tous les jours, un micro tendu, une prise de parole, et à chaque fois revenait ce moment où il disait, voilà, et pour toutes ces raisons, la loi immigration que je porte devra être votée, ce serait important, et pour autant, moi je sors, comme je te disais, d'un café au niveau de l'Assemblée nationale, et il y a des députés, qui notamment LR, qui aujourd'hui disent, mais en fait, nous on n'oublie pas que dans cette loi immigration, il y a deux volets, il y a deux jambes, il y a une jambe évidemment qui concerne les expulsions et la question de l'immigration sur le côté, on va dire plutôt, voilà, radicalisation et moyen pour expulser ces personnes. Et puis, il y a toujours cette jambe qui restera dans ce projet, qui est liée, elle, directement à la régularisation voilà, des titres de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension.
Mathieu.
Et puis, autre chose, c'est qu'Emmanuel Macron adore ce type de rivalité. Ouais. Il adore ça. Avant, c'était
Oui, ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, ce n'est pas l'amour fou. Pour utiliser un euphémisme.
Non, c'est pas du
l'un
tout.
L'un vient de la droite, l'autre de la gauche. Ouais, il y a des dissensions.
On s'y perd un petit peu maintenant.
Parfois, on y revient, mais bon.
Mais Emmanuel Macron adore observer ça. Et d'ailleurs, il sait qu'il faudra bien lui trouver un successeur. Et donc, c'est devenu une arène maintenant autour de lui. Il y a aussi Bruno Le Maire qui rentre un peu dans le jeu parfois. Clément Beaune, par-ci, par-là. Et bon, Gabriel Attal, il voulait être maire de Paris. On se demande si maintenant il ne veut pas être directement président de la République.
Les sondages, en tout cas, sont positifs pour lui et il encouragera à le faire.
Si là on a l'opportunité, il aurait tort de s'en priver. Mais ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron ne sera pas celui qui arrêtera les rivalités. Au contraire, il laissera faire. Mais il n'en a pas envie.
Il est darwiniste. Mais en plus, il faut rappeler les tensions entre eux. Nous sommes fin août. Gérald Darmanin fait une rentrée politique très remarquée à Tourcoing. Le soir même, Gabriel Attal s'invite au JT de TF1 le 20h pour annoncer l'interdiction des abayas dans les écoles. Et juste après, Gabriel Attal dit en on, même pas en off, qu'il ne cautionne pas, on va dire, les prises de position de Gérald Darmanin sur tel ou tel sujet. Donc on sent qu'entre les deux, il y a ce conflit-là. Ils se retrouvent avec l'actualité à devoir travailler ensemble, à devoir parfois se déplacer ensemble. Donc c'est assez intéressant de voir les deux, ce qui n'était pas le cas en 2015 entre Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, parce que Bernard Cazeneuve avait peu d'ambition comparé à Manuel Valls. Et on parle de Emmanuel Macron, on parle de Gabriel Attal, on parle de Gérald Darmanin et Elisabeth Borne. On la voit peu, pourtant on l'a entendu à l'Assemblée, au Sénat, etc. Mais on a l'impression qu'elle est un petit peu au-dessus de la mêlée ou en recul par rapport à ce conflit-là. Vous en pensez quoi, vous ?
Elle a beaucoup donné, Elisabeth Borne. Elle a pris des coups, elle a pris beaucoup de coups pendant la réforme des retraites. Elle est solide, tout le monde le dit, mais elle peut être fatiguée aussi un petit peu. Et en plus, sur tout ce qui est international, ça ne relève pas de ses compétences. Donc c'est aussi un peu normal qu'elle se mette en retrait. Moi, je n'ai pas d'autres analyses sur...
Et je pense aussi que ça l'arrange un peu, ce conflit d'Armanin bah
oui,
à Attal,
oui, oui,
parce qu'on a souvent parlé des dissensions qui sont réelles hein, entre elle et Gérald Darmanin. Là, ça lui permet de dire, vous voyez, hop, battez-vous entre vous. Moi, je suis un petit peu au-dessus de la mêlée, je suis la première ministre. Gérez votre loi immigration, gérez votre sécurisation des écoles. Et moi, je suis un peu au-dessus. C'est un peu ce que tu ressens, toi, Léopold, ou pas?
Oui, puis elle a aussi des affaires à gérer qui la concernent, elle, principalement. Et on est au mois d'octobre, au mois de novembre. C'est un peu les mois qui lui sont désormais un peu consacrés pour ses 49-3 à l'Assemblée nationale.
Une dizaine
elle a
en
une
deux
présence,
mois.
Elle a une présence qui est très importante. Elle doit être là pour, effectivement, arriver comme ça à 23h30 à l'Assemblée et dégainer un 49-3 pour faire passer ses textes concernant le budget. Donc elle a aussi cette excuse, entre guillemets, qui lui permet de ne pas entrer directement dans cette espèce de rivalité hein, qu'on voyait quand on parlait entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal. Je pense que pour toutes ces raisons et pour aussi, évidemment, une question de on va pas se mentir, de caractère, elle n'a pas peut-être la même passion que
oui,
Gabriel Attal et Gérald Darmanin et les mêmes ambitions également derrière. Je pense qu'il y a d'autres, elle a un autre profil qui est encore un peu différent. En revanche, ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a quand même un point commun entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal, c'est que ce sont des bêtes de communication et que clairement, ils savent aussi avec leur équipe autour d'eux, inonder complètement, que ce soit les antennes de télévision, de radio, de presse écrite ou même de sur nos téléphones, sur nos smartphones, interview sur interview, conférence de presse sur conférence de presse, et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup avec aussi, et c'est ce que disait Mathieu, Gabriel Attal, qui joue aussi sur la plateforme de Gérald Darmanin, parce qu'il incarne aussi désormais une sorte de fermeté. Je prends pour exemple les sanctions pour les 180 élèves qui ont perturbé la minute de silence en hommage à Dominique Bernard. Directement, il a dit, voilà, il y aura saisine du procureur de la République.
Sur la baïa aussi, il incarne cette ligne-là.
Exactement,
alors que, voilà.
Sur le harcèlement scolaire.
Plutôt de la gauche, voilà, très bien. Merci à vous deux.
Merci.
J'espère qu'on fera un prochain podcast plus sympa, plus joyeux, quoi. On a envie, non?
Ouais.
Parce que sachez que beaucoup de Français sont déprimés en ce moment et c'est assez anxiogène. Mais nous aussi, de l'intérieur, ça joue beaucoup sur notre morale et donc ce n'est pas simple. J'espère qu'on a pu éclairer le maximum d'auditeurs. Merci à vous deux. Allez, je vais formuler un vœu pour la conclusion, que le prochain podcast soit un peu plus gay, soit un peu plus positif. C'est pas sûr, mais promis, on revient dans tous les cas la semaine prochaine. Je compte sur vous pour partager ce nouveau numéro, pour mettre des étoiles un petit peu partout. À très vite pour un nouveau numéro du Service Politique.